Guerre et paix. Deuxième partie, chapitre 1, scène 12. Natacha venait d'avoir 16 ans dans cette même année 1809, qu'elle s'était assignée comme le terme de son attente après le baiser donné à Boris 4 ans auparavant. Depuis lors, elle ne l'avait point revu. Lorsqu'on parlait de lui devant la comtesse, Natacha ne témoignait aucun embarras. Pour elle, cet amour avait été un enfantillage sans portée et rien de plus. Cependant, tout au fond de son cœur, elle se demandait avec inquiétude si sa promesse d'enfant ne constituait pas une obligation sérieuse qui la liait à lui. Boris n'était plus revenu les voir depuis son dernier départ pour l'armée, bien qu'il fût allé plus d'une fois à Moscou et qu'il eût même passé à une petite distance d'Outradneuil. Natacha en tirait la conclusion qu'il l'évitait, et les réflexions chagrines de ses parents à son sujet confirmaient ses suppositions. « De nos jours, disait la comtesse, on oublie les vieux amis. » Anna Mikhailovna se montrait aussi plus rarement et avait adopté dans son maintien une certaine affectation de dignité, jointe à un enthousiasme exubérant pour les mérites de son fils et pour sa brillante carrière. À l'arrivée des Rostov à Pétersbourg, Boris alla lui faire sa visite sans la moindre émotion. Son roman avec Natacha n'étant plus à ses yeux qu'un poétique souvenir, il désirait leur faire comprendre que ses relations d'enfance n'entraînaient à leur suite aucun engagement, ni pour elle ni pour lui. Il avait su d'ailleurs se conquérir une fort agréable position dans le monde par son intimité avec la comtesse Bezoukhov. Son rapide avancement, dû à la protection et à la confiance que lui témoignait une personne influente, demandait, comme complément à sa fortune, un beau mariage avec une riche héritière. Et ce rêve pouvait facilement se réaliser. Natacha n'était pas au salon lorsqu'il y entra. Mais, prévenue aussitôt, elle accourut toute réjouissante. Et un sourire plus qu'affectueux rayonna sur son visage. Boris, qui se rappelait la fillette d'autrefois, avec ses jupes courtes, ses yeux noirs et brillants, ses boucles en désordre et ses francs éclats de rire, fut stupéfait à la vue de la jeune fille d'aujourd'hui, et ne put dissimuler le sentiment d'admiration qui s'empara spontanément de lui. Elle s'en aperçut et lui en sut gré. Reconnais-tu ton espiègle petit ami de jadis ? Lui demanda la comtesse. Boris baisa la main de Natacha en exprimant sa surprise.
« Comme vous avez embelli !»«
Je crois bien, » lui répondirent ses yeux mutins. Natacha ne prit aucune part à la conversation. Elle examinait en silence, jusque dans ses moindres détails, le fiancé de ses jeunes années. Celui-ci sentait peser sur lui tout le poids de ce regard scrutateur, mais amical. Et le lui rendait à la dérobée. Elle remarqua aussitôt que l'uniforme, les éperons, la cravate, la coiffure de Boris, tout était à la dernière mode et du plus pur comme il faut. Assis de trois quarts dans un fauteuil, de sa main droite, il tendait sur la main gauche un gant blanc, à peau fine et souple, qui l'emprisonnait étroitement. Dépeignant d'un air légèrement dédaigneux les plaisirs de la haute société de Pétersbourg, il passait en revue, non sans y mettre une pointe d'ironie, le Moscou du temps passé et leur connaissance commune. Natacha ne fut pas dupe du ton dégagé dont il parla, en passant, du bal chez un des ambassadeurs et de ses invitations à deux autres soirées. Son regard et son silence prolongé finirent par le troubler. Il se tournait souvent de son côté et s'interrompait au milieu de ses récits. Au bout de 10 minutes, il se leva et prit congé, tandis que les yeux gais et moqueurs de Natacha suivaient chacun de ses mouvements. Boris dut s'avouer qu'elle était tout aussi séduisante, peut-être même plus, qu'auparavant, mais qu'il ne devait point songer à l'épouser, car la médiocrité de sa fortune deviendrait un obstacle à sa carrière, à lui. Se laisser aller au charme qu'il lui connaissait et renouer avec elle ses relations d'autrefois, c'était aussi impossible qu'indélicat. Il résolut donc d'éviter de la rencontrer à l'avenir. Et peu de jours cependant après cette sage résolution, il reparut chez les Rostov et y passa la plus grande partie de son temps. Il se disait parfois qu'aucune explication était nécessaire, afin qu'elle comprît bien que le passé devait être oublié de part et d'autre, et que, malgré tout, elle ne pouvait devenir sa femme. Mais il ne réussissait jamais à aborder ce sujet embarrassant, et il se laissait entraîner sans réfléchir. Natacha, de son côté, semblait, au dire de Sonia et de sa mère, se préoccuper de nouveau vivement de lui. Elle lui chantait ses romances favorites, lui montrait ses albums, le forçait à y écrire des vers, ne lui permettait pas de rappeler le passé, mais lui donnait à entendre combien le présent était beau et radieux. Aussi la quitta-t-il chaque soir, en laissant tout dans le vague, sans lui avoir dit un mot de ce qu'il voulait lui dire, et ne sachant lui-même comment cela finirait. Il négligeait même la belle Hélène, et en recevait journellement des billets pleins d'amers reproches, qui ne l'empêchaient pas de retourner, le lendemain, auprès de Natacha.